Vous êtes sur les ondes de choc.ca. C'est la sixième émission des Apatrides Anonymes, émission antiraciste qui vous parle d'enjeux liés à l'immigration, la paranoïa sécuritaire et plus. C'est Simon à l'animation, une grande première, et Marie-Ève à la console, une autre première aussi. Donc, je suis avec Marie-Ève.
Salut, salut.
Bonjour Marie-Ève. Et je suis avec Mathieu aussi. Bonjour à vous deux. Aujourd'hui, au menu de la musique, des actualités internationales, les bons et mauvais coups du jour, l'agenda antiraciste, le retour de la minute coloniale, et dans quelques instants, on commence avec Mathieu et des actualités caco-provinciales, si je peux dire.
Brunâtre provinciale.
Parfait, dans quelques instants.
Alors ouvrez-nous la porte.
Bonjour mesdames et messieurs, ici Mathieu pour les Apatrides des Anonymes, les actualités brunâtres, les anti-Sunnyways, des caquistes.
Oh oh oh,
on
rien
pas.
De moi.
On ne rit pas. Notre préféré, Simon Jolin-Barrette, celui qui ne cligne pas des yeux.
Ben oui, c'est un reptilien.
Ou un extraterrestre. Donc, on va y aller sérieusement, parce que c'est assez technique. Projet de loi 9 sur l'immigration. Vous vous rappelez les 18 000 dossiers mis à la poubelle, et bon, les quotas, l'arrimage des nouveaux arrivants avec les entreprises. Donc, c'est toujours en commission parlementaire. Ça se déroule jusqu'à la semaine prochaine. La session finit le 14 juin, d'ailleurs. Et ben voilà que M. Barrette a proposé en commission parlementaire, quand il a reçu les gens de la Fédération des Chambres de commerce du Québec et du Conseil du patronat du Québec de proposer d'imposer des conditions pour l'embauche des nouveaux arrivants, ce qui est un peu déjà inclus dans un des articles du projet de loi qui permet au gouvernement de déterminer les conditions pour les employeurs qui veulent embaucher un ressortissant étranger, souligner le terme. Donc, il veut imposer l'idée d'obliger les employeurs à fournir sur les lieux de travail un espace pour faire la francisation et aussi de libérer les employés pour suivre des cours de francisation. Et ça, évidemment, le milieu des affaires qui aime bien les idées de la CAQ, qui aiment bien quand on leur donne facilement des gens qui vont travailler chez eux, on leur donne plein d'avantages fiscaux. Mais là, quand on leur met des conditions, c'est sûr qu'ils aiment un peu moins ça. Donc, ce qu'ils disent, c'est qu'il faut laisser au milieu de travail de la flexibilité. Ils disent aussi que c'est du temps et de l'argent d'encadrer des immigrants puis des francisés, et que les entreprises aussi, bon point, n'ont pas toujours les locaux disponibles. Très intéressant. Et on finit par entendre, de la part de la représentante de manufacturiers et exploitateurs du Québec, que ce n'est pas à l'employeur de financer tout ça. Bon, le chat sort du sac, ils veulent pas payer pour ça, ils veulent avoir des immigrants servis, formés, déjà tout encadrés, tout bien habillés, bien peignés, et ils veulent pas donner un coup de main pour les Français. Fait que là, c'est drôle de voir une espèce d'allié, ça devrait être des alliés potentiels, la CAQ et le milieu des affaires, mais là, ils s'obstinent sur de l'argent, évidemment. Et là, il y a vision nationaliste de la CAQ aussi qui dépasse là-dedans, qui veulent franciser tout le monde à tout prix rapidement. Donc, c'est un peu ça la réalité qui se passe au niveau de cette partie-là du projet de loi. Parce qu'il y a le fameux système ARIMA qui existait déjà, qui sert justement à arrimer les immigrants selon leur formation, selon leurs compétences, à des emplois, surtout en région, qui sont disponibles. Ils doivent remplir une déclaration d'intérêt qu'on appelle, ça va être la nouvelle norme d'ailleurs dans le projet de loi pour tout le monde, mais c'est suspendu le temps de l'adoption du projet de loi, mais il y a tout cet enjeu-là autour de ça qui se passe. Et une autre affaire que je trouvais comique par rapport aux compétences de qui et de quoi, c'est que M. Jolin Barrette veut rapatrier du fédéral l'étude d'impact sur le marché du travail. Ça, c'est demandé pour les entreprises, soit en faire appel à des travailleurs étrangers, et c'est le fédéral qui gère ça, hein. C'est connu au niveau des travailleurs étrangers. Donc, ils veulent rapatrier ça au Québec pour faire des assouplissements, pour que ça soit plus efficace, et ils veulent aussi que les travailleurs étrangers aient un contrat de 2 ans au lieu d'1 an. Hein, on en a parlé souvent. Mais mais ils ne veulent pas que l'employé puisse changer d'employeur, par exemple.
Donc, pendant ces deux ans-là.
Et ça, le fédéral n'est pas d'accord.
C'est un peu comme l'ancien programme des aides ménagères.
Oui, ou le problème des travailleurs étrangers agricoles, par exemple, qui existe toujours. Ouais. Donc, ils veulent rapatrier des choses, se l'approprier, le changer, mais ils veulent garder les mauvais côtés, comme par exemple le fait que l'employé est captif de son employeur. Puis le fédéral ne veut pas. Donc, il y a des chicanes aussi là-dessus. Fait que là, finalement, le projet de loi devait être adopté avant la fin de la session parlementaire le 14 juin. Et là, on a ouvert la porte à ce que ça soit adopté seulement à l'automne. Donc, ça, c'est à suivre. Et l'autre partie, dans les actualités brunâtres de la CAQ, on revient aux 18 000 dossiers en immigration en attente. Vous savez que, il y a une injonction de la Cour qui est obligée à reprendre le traitement de ces dossiers-là, même si le projet de loi est à l'étude. Et là, on apprenait qu'en avril, il y a eu 111 dossiers acceptés sur 727. Ça, c'est 15%. OK? C'était pareil le mois de mars qui était à partir de l'injonction. Mm-hmm. Et là, on se rend compte que c'est beaucoup plus bas que la normale. Parce que même le juge qui avait autorisé l'injonction disait que normalement, le ministère en traite entre 1 000 et 2 000 par mois et que le taux d'acceptation est de 50% en général. Fait que là, Stéphane Enfield, par exemple, avocat spécialisé en immigration, il trouve ça louche un peu. Il s'explique mal que ces chiffres soient très différents de avant le dépôt du projet de loi. Donc, est-ce que, étonnamment, la qualité des dossiers est moins bonne tout d'un coup? Hein, par exemple.
Ouais.
Donc, lui, il voit des conséquences du dépôt du projet de loi. Quand on parle de 15% au lieu de 50% d'acceptation, il y a beaucoup moins de dossiers traités dans un mois. Il y a quelque chose qui est problématique.
Oui, c'est ça. Parce que tu dis que c'est 100 quelques là, qui ont été traités.
Non, 111 qui ont été acceptés sur
727. 111 qui ont été acceptés, mais on ne sait pas combien ont été traités dans ce mois-là.
Oui, sur 727. C'est ça, le 15%.
OK,
oui,
c'est ça.
Oui, voilà. Et d'habitude, c'est 50%.
Okay.
Mais c'est bon que tu répètes. C'est peut-être pas clair pour bien des gens à l'écoute. Mais on retient 50% normalement d'acceptation sur un plus grand nombre de dossiers.
Ah ouais.
Et là, c'est seulement 15% depuis deux mois.
Ouais.
Donc, y a-t-il du sabotage? Bon, c'est ça que la question qui se pose. Et pour finir là-dessus, je dois vous dire que en 2018, le nombre de travailleurs acceptés avec un certificat de sélection était à autour de 26-27 000 personnes. Et là, le ministre Jolin Barrette a prévu en sélectionner entre 12 et 15 000 cette année. Donc, c'est toute la même logique. On parle là du nombre d'immigration acceptée par année,
ouais.
Là, 40 000 ou 50 000,
ouais.
C'est un peu là-dedans. Mais tout ça pour vous dire que ça fait pas l'actualité beaucoup, ce projet de loi-là, tout ce qu'il y a autour, mais c'est quand même important pour la suite des choses. Et s'il n'est pas adopté sous le baillon au mois de juin, ça va être en septembre, donc on pourra reparler cet été. Mais je pense que j'encouragerais les gens à surveiller ce qui se passe de ce côté-là. Voilà, merci.
Des actualités québécoises ou provinciales, on passe maintenant aux actualités internationales et nous nous penchons aujourd'hui sur le Venezuela où, face à la crise économique et politique qui le traverse, environ 3 millions de personnes auraient quitté le pays depuis 2015 selon un récent rapport du Haut Commissariat pour les réfugiés de l'ONU. Ça, ce que ça veut dire, en fait, c'est qu'en moyenne, il y a entre 3 000 et 5 000 personnes qui fuient quotidiennement le Venezuela. La situation est telle que l'exode des Vénézuéliens est considéré par l'ONU comme le déplacement de personnes le plus massif de l'histoire récente de l'Amérique latine. C'est vraiment... c'est peu dire. Cette vague migratoire-là est pas nouvelle, là. Elle a commencé dès 2014. Mais au départ, c'était surtout des Vénézuéliens de la classe moyenne, voire de la classe aisée qui quittaient le pays. C'est-à-dire ceux et celles qui avaient finalement suffisamment d'économie pour recommencer une vie à l'étranger. Donc, à cette première vague-là, s'est ajoutée une deuxième vague depuis un an ou deux. Et qui concerne cette fois-ci beaucoup plus les classes populaires. Donc là, ça va être surtout en fait majoritairement des familles accompagnées d'enfants, des femmes enceintes, des personnes âgées ou des personnes qui ont un handicap, qui migrent. Et ces personnes-là ont évidemment immédiatement besoin à la fois de protection, d'abri, de nourriture et de médicaments. Depuis donc 2014, le nombre de Vénézuéliens qui ont présenté, qui ont fait des demandes de statut de réfugié à, dans le monde, a augmenté de 4000% quand même. Donc, à la fin de l'année dernière, donc à la fin de 2018, pardon, ça représentait environ 460 000 Vénézuéliens qui avaient fait une demande d'asile. La majorité dans les pays voisins de l'Amérique latine, qui sont le Brésil, le Costa Rica, le Mexique, le Panama, l'Équateur, le Pérou et la Colombie. Mais il y a beaucoup de Vénézuéliens aussi qui pourraient satisfaire les critères exigés là pour obtenir le statut de réfugié, mais qui n'engagent pas la procédure et qui vont plutôt opter pour d'autres formes légales de séjour qui sont à la fois plus simples, plus rapides, puis qui vont donner accès, par exemple, à l'emploi, à l'éducation, puis à certains services sociaux. Donc là, on parle d'environ 1,4 million de personnes qui ont reçu divers permis ou visas, comme des visas humanitaires ou encore des visas de travail. Bon, évidemment, il y a quand même des centaines de milliers de Vénézuéliens qui sont toujours sans documents d'identité ou de permis de séjour dans les pays voisins, là, et qui ont donc aucune garantie de pouvoir exercer leurs droits fondamentaux. Évidemment, cette situation-là les rend extrêmement vulnérables à l'exploitation professionnelle, sexuelle, au trafic d'êtres humains, à la violence, à la discrimination et à la xénophobie. J'y reviendrai tout à l'heure. Bon, cette situation-là, ce qu'elle a de particulier, c'est que le Venezuela a pourtant été, en fait, pendant longtemps, un pays d'accueil pour les populations fuyant d'autres pays d'Amérique latine. Par exemple, entre 3 et 4 millions de Colombiens ont par le passé fui le pays pendant les conflits armés, pour s'installer justement au Venezuela. Ou encore, il y a des centaines d'Équatoriens qui ont également quitté en masse leur pays rongé par la crise économique au début des années 2000. Et là encore, une grande partie s'est retrouvée au Venezuela. Donc là, c'est comme le flux migratoire est vraiment inversé.
Est-ce qu'on sait si les gens, par exemple, de l'Équateur, est-ce qu'ils retournent en Équateur ou ils vont plutôt opter pour un deuxième nouveau pays d'accueil?
Ça, je sais pas. J'ai pas trouvé cette...
Après la crise, il y aura probablement des statistiques.
Non, c'est ça. Bon, puis là, faut dire que cette vague migratoire-là, elle intervient dans un contexte géopolitique qui était déjà très tendu entre le Venezuela, ben pas seulement au Venezuela, mais entre le Venezuela et ses pays frontaliers. Par exemple, ben, tu sais, il y a le Brésil, l'Argentine, le Pérou et la Colombie qui sont très actifs dans le groupe de Lima. Et le groupe de Lima qui prend clairement position pour la destitution de Maduro et qui appuie l'opposition. Donc, les migrantes vénézuéliens se retrouvent pris dans d'une certaine façon dans cet étau géopolitique là. Puis là, ben chacun tente d'exploiter la situation. C'est que d'un côté, t'as les pays limitrophes qui se disent en danger face à l'afflux de migrants vénézuéliens. De l'autre côté, t'as le gouvernement Maduro qui, lui, crie au complot ou affirme que les Vénézuéliens ont fui à cause des sanctions économiques imposées à leur pays. Ce qui est pas totalement faux, évidemment, non plus, là, mais bon, juste pour vous donner un exemple, l'automne dernier, alors que la crise migratoire prenait vraiment des proportions de plus en plus inquiétantes, le président brésilien Michel Temer a mobilisé l'armée pour protéger la frontière avec le Venezuela et a déclaré qu'il cherchait un soutien international pour faire face à la crise vénézuélienne qui, selon lui, menace l'harmonie de l'Amérique du Sud.
Qui va très bien, d'ailleurs.
Qui va super bien. Puis Maduro, puis là, t'as Maduro, tu sais, c'est pour illustrer ce que je venais de dire, comme quoi les deux, que les migrants se retrouvent un peu pris entre deux feux. C'est que Maduro, lui, quant à lui, au même moment, l'automne dernier, il lançait cet appel aux Vénézuéliens qui avaient quitté le pays. Il disait, je dis aux Vénézuéliens qui souhaitent échapper à l'esclavage économique dans les pays où est-ce qu'ils sont partis, évidemment. Arrêtez de laver les toilettes à l'étranger et venez vivre dans votre patrie. Donc, si on revient au commissariat, aux réfugiés, le HCR, lui, considère maintenant que la majorité des personnes qui fuient le pays ont besoin du système de protection internationale des réfugiés et demande aux États de veiller à ce que les Vénézuéliens, quel que soit leur statut juridique, ne soient pas expulsés ou renvoyés de force au Venezuela. Plus concrètement, le HCR a mis sur pied avec environ près d'une centaine de partenaires là, un plan régional d'aide pour les réfugiés et les migrants qui requiert en 2019 là, un montant initial de 134 millions de dollars pour répondre aux besoins les plus urgents des réfugiés et des migrants vénézuéliens dans les 16 pays hôtes là, les plus impactés par la situation. Le HCR a notamment considérablement renforcé sa présence le long des frontières clés pour limiter l'ampleur des risques éventuels, surtout en ce qui concerne l'accès au territoire, la traite des êtres humains, comme je disais tout à l'heure, l'exploitation, mais aussi l'identification des personnes qui ont besoin d'une protection et de services particuliers, comme les enfants séparés et non accompagnés ou les femmes enceintes. Le HCR fournit aussi une aide et des conseils juridiques à l'arrivée, distribue de l'eau potable ainsi que des trousses d'hygiène pour les enfants, pour les femmes aux zones frontalières aussi, et verse des allocations en espèces aux Vénézuéliens les plus vulnérables. Je mentionnais la xénophobie tout à l'heure. Pour endiguer justement cette xénophobie dans les pays hôtes à l'égard des Vénézuéliens et promouvoir une certaine forme de solidarité, le Haut Commissariat aux réfugiés a lancé 4 campagnes en Colombie, au Pérou, à Panama puis au Costa Rica, et on s'attend à ce que d'autres pays de la région, là, notamment le Brésil, l'Équateur, Trinité et Tobago, même lancent des initiatives semblables là, en 2019. Donc, on va voir là comment la situation évolue dans les prochains mois, mais ce qui est sûr, c'est qu'avec une hyperinflation qui a atteint les 1 000 000 %, 1 000 000 %, il y a vraiment 6-0, c'est comme hallucinant là, les 1 000 000 % en 2018, ça c'est les chiffres du FMI. Ouais. L'exode de la population vénézuélienne est pas près de s'arrêter, et ce malgré un plan de relance qui a été mis en place par Maduro à l'automne dernier. En tout cas, c'est certainement pas prêt de s'arrêter, en tout cas tant que la crise politique entre les chavistes et l'opposition va perdurer, puis tant que le Venezuela va être évidemment sous le coup des sanctions économiques américaines.
Moi, je me demandais, comme tous les pays occidentaux, dont ceux du groupe de Lima, encouragent l'opposition à prendre le pouvoir par la force et avec les sanctions économiques, rendre la situation très difficile, est-ce que les pays occidentaux et les pays autour, limitrophes, comme tu disais, ont développé un système pour accueillir plus de réfugiés ou faire un corridor spécial pour ces gens-là, vu qu'ils encouragent la déstabilisation du pays? Est-ce que finalement, ils ont décidé de faire quelque chose? Canada ou la Colombie, le Brésil, est-ce qu'ils ont dit, venez-vous en masse chez nous, on vous donne le statut de réfugié?
Si on parle, mettons, tu sais, du Canada ou des États-Unis, moi, j'ai absolument rien lu là-dessus. De ce que j'ai lu, en tout cas, le Haut Commissariat, il se concentre vraiment sur les pays autour, sur les pays limitrophes. Puis, mais si on regarde ce qui s'est passé au Brésil, tu sais, où est-ce qu'à l'automne dernier, il y a vraiment eu une fermeture de frontières, puis ils ont même remis l'armée à la frontière pour vraiment fermer. Mais là, ils commencent, puis là, le travail est en train de se faire maintenant, justement,
le Haut Commissariat, c'est leur travail, mais je parle des pays politiquement, tu sais, de recevoir, puis de donner des sous, et d'encadrer, et tout ça, ça n'a pas l'air d'être présent.
C'est en train, tu sais, ils travaillent. Okay. Tu sais, quand je dis que le plan régional, quand je dis qu'il y a une centaine de partenaires, évidemment, dans ces partenaires-là, il y a les gouvernements des pays qui en font partie, là. Mm-hmm. Mais de ce que j'ai lu, ça semble être assez lent à se mettre en place. Mais tranquillement, là, il y a des trucs qui se passent dans les pays même, tu sais, pour justement que l'accueil soit plus.
Je pensais aux Syriens, par exemple, où il y a eu des plans spéciaux, tu sais, dans ce sens-là.
Non,
ça n'a pas l'air d'être
ça,
le cas.
C'est comme c'est...
Au Canada, il n'y a pas de programme spécial qui a été annoncé, je pense. Le ministère de l'Immigration, on ne l'entend jamais, ou à peu près jamais, de toute façon.
Non, mais mon point, c'est que c'est les pays-là qui encouragent la déstabilisation du pays. Donc, le fait que les gens sortent n'ont pas de plan pour recevoir ces gens-là. C'est vraiment ça qui est scandaleux.
Ouais, ouais.
Là. Ouais. Voilà.
Bien, ça va être à surveiller dans les prochains mois, là, voir justement s'il y a quelque chose qui se passe à ce niveau-là, là, au niveau des pays.
Parce qu'en plus, c'est les plus riches qui sont partis au début, la classe moyenne, parce qu'ils étaient contre le régime, entre autres. Ils sont partis avec leur argent. Puis là, c'est les pauvres qui restent là.
Ça non plus, j'ai pas trouvé d'informations sur justement, est-ce que les personnes qui sont parties avec la vague, comme à laquelle tu fais référence, c'est-à-dire la première vague, tu sais, qui était les plus nantis. Est-ce que là, il y a une forme de solidarité, tu sais? J'en doute fort.
Tant que le régime est là, je pense pas. Hein, à part encourager l'opposition, non, c'est ça. Ouais.
Fait que, mais bon, c'est vraiment une situation
à suivre.
À suivre.
Le groupe islandais Atari avec le chanteur palestinien Bachar Mourad. La pièce s'appelle Cliffy Samed. Donc, un beau mix Islande-Palestine en arabe et en islandais. Faut suivre quand même les paroles. C'est une nouveauté assez récente et le lien, ben, c'est que le groupe Atari avec un H d'ailleurs, faut le préciser, participait à l'Eurovision qui avait lieu en Israël cette année, il y a quelques semaines, qui a été beaucoup contesté par le mouvement, entre autres, BDS pro-palestinien. Et le groupe Atari a fait une sortie pendant l'annonce des résultats avec des drapeaux palestiniens pour dénoncer la présence de l'Eurovision
ça
en Israël.
Ça avait lieu à Tel Aviv aussi, si je me rappelle bien.
En Israël, c'est ça.
Oui,
à Tel Aviv. Donc, ils ont protesté pour... et aussi, ils font des collaborations avec des... sont souvent allés dans les territoires occupés et font des collaborations avec des Palestiniens. Pour un groupe industriel, c'est quand même assez particulier. Donc, justement, dans mon premier bon coup de la semaine, Simon, c'est ça se passe dans les territoires occupés. Ça nous ramène au territoire, au conflit israélo-palestinien. Donc, une histoire de tramway qui doit relier Jérusalem aux colonies occupées illégalement par Israël.
Il y a déjà Est-ce que Bombardier est impliqué là-dedans?
Ben voilà, Simon, tu me coupes mes scoops, là. Franchement, écoute...
OK, je te laisse parler.
Non, tu pourras après. Écoute, c'est un appel d'offres qui dure depuis un bout de temps pour une deuxième ligne. Il y a déjà une ligne qui existe. Et Bombardier fait partie d'un des consortiums qui a appliqué sur l'appel d'offres, donc pour exploiter et gérer le tramway actuel et en construire une nouvelle ligne. Et évidemment, ben on a su récemment que le consortium dont Bombardier fait partie s'est retiré de l'appel d'offres sous les pressions qu'il y a depuis quelques mois du mouvement BDS, boycott des investissements sanctions, là, pour préciser aux gens qui connaissent moins. Donc, il était associé au fonds d'investissement australien Macquarie et à la compagnie autrichienne Wiener Linen. Et finalement, au début, le fonds d'investissement s'est retiré. Après ça, c'est tout le consortium qui s'est retiré. Faut dire que c'est considéré comme un crime de guerre de participer à l'expansion des colonies au niveau du droit international quand c'est occupé illégalement par un autre pays, dans le cas-ci Israël. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu d'autres aussi retraits dans l'appel d'offres de d'autres consortiums sous les pressions. La compagnie publique française Systra s'est retirée aussi. Ensuite, il y a eu la compagnie française Veolia qui s'est retirée, qui est associée à CityPass, qui eux gèrent déjà le tramway actuel, qui sont associés avec Siemens d'Allemagne, très connu au niveau des trains aussi. Donc c'est un petit peu le chaos à ce niveau-là. Les pressions commencent à faire effet, ce qui est apprécié par beaucoup de gens. Il reste encore d'autres compagnies qui sont en ligne pour le projet, mais il faut dire que par exemple la Fédération internationale des droits humains répète que c'est un instrument de la politique de colonisation d'Israël et de son et de l'annexion illégale de Jérusalem en violation complète du droit international, comme je vous disais. Et évidemment, ces compagnies-là ne sont pas devenues pro-palestiniennes du jour au lendemain. C'est sûr, c'est qu'il y a des risques à la réputation, à l'image des compagnies, c'est des multinationales qui sont dans plusieurs pays, et aux risques produits par l'occupation militaire prolongée d'Israël.
Il n'y a pas vraiment de risque de sanctions, par contre.
Il y a certains pays européens ou dans le monde qui peuvent faire certaines sanctions, retirer de d'autres appels d'offres internes, parce qu'il y a certains pays qui commencent à avoir des lois, puis ça existe pour d'autres pays qu'Israël, évidemment, dans des pays en guerre ou sous occupation. Mais il faut dire aussi qu'il y a eu plein d'incidents concernant la sécurité de la ligne actuelle du tramway. Il y a eu des attaques, des jets de pierre, des manifs, des émeutes et surtout des manifestations dans les zones ultra-orthodoxes qui sont contre l'occupation d'ailleurs des territoires occupés, pour ceux qui ne savent pas. Et eux, ils ont vraiment saboté des trains. Donc, les ultra-orthodoxes là, qu'on connaît donc sont assez actifs là-dessus à Jérusalem. Donc, les compagnies disent que le contrat ne les protégerait pas de pertes subies pendant des émeutes, des manifs et des attaques terroristes ou tout ça. Fait qu'il y a ça qui joue aussi. Mais ce qui est intéressant pour les militantes palestiniens, c'est qu'ils voient ça comme une victoire quand même pour faire pression sur Israël et qui, dans le cadre de l'apartheid israélien, qui puisse faire se retirer et éventuellement arrêter cette occupation-là. Puis BDS commence beaucoup à déranger. Il y a plusieurs pays qui commencent à les interdire, qui leur mettent des bâtons dans les roues à la demande d'Israël. Mais il reste quand même encore d'autres compagnies qui sont en liste pour l'appel d'offres. Il en reste trois, finalement. Entre autres, la compagnie Alstom, française, qui eux aussi sont sous le feu des militantes, avec Moventia, qui est la compagnie publique de Barcelone de transport en commun, sont ensemble. Il y a aussi la compagnie CRS espagnol, qui est assez connu aussi. Et il y a aussi le constructeur local dans les colonies avec la chinoise CRC et le fonds d'investissement français Meridiam, qui est avec le Crédit Agricole. Donc, c'est des noms qui nous disent vaguement quelque chose.
Des gros portefeuilles obscurs.
Exactement, louche. Et un quatrième consortium qui vient de se joindre, c'est deux compagnies grecques, dont l'opérateur du métro d'Athènes, l'entreprise plus Stasi. Et là, en Grèce, c'est le bordel. Il y a des députés du Parti Syriza, des syndicats qui ont commencé à boycotter la compagnie locale. Fait qu'on voit que ça bouge quand même, ce qui est assez intéressant. Et évidemment, les gens du mouvement BDS appelle à ce que la pression continue sur les entreprises impliquées toujours dans l'appel d'offres, car c'est vraiment un symbole pour les praticiens de pression, mais c'est vraiment aussi une facilité technique et aussi qui peut justifier après l'annexion de plus en plus forte des colonies israéliennes, des colonies juives finalement dans les territoires palestiniens occupés et l'annexion des territoires éventuellement.
Donc en fait, cette ligne-là, est-ce que tu peux nous redire, elle devait passer, elle doit passer de Jérusalem à des colonies qui sont dans le territoire morcelé, là, qui
ouais,
vont
exactement.
Passer par des territoires cisjordaniens palestiniens
ouais.
et rejoindre des colonies illégales plus loin, c'est ça?
C'est ça. Il y a déjà une ligne qui existe entre Jérusalem et certaines colonies, et la deuxième ligne, ça serait pour rejoindre plus de colonies, relier plus de colonies avec Jérusalem.
Parfait.
Et Jérusalem-Est, c'est tout l'enjeu de l'annexion comme capitale, et bon, etc., etc., donc il y a des enjeux assez forts là-dessus. Je sais pas si j'ai le temps pour un deuxième bon coup, je peux peut-être... non, on va voir à la fin de l'émission si j'ai le temps de vous parler de mon préféré, hein, Ahmed Hussein, ministre des Migrations,
oui.
Sunny Ways. OK. Fait que si j'ai le temps, tantôt, on s'en parle.
Les Apatrides Anonymes vous présentent la Minute Coloniale. À l'instar du magnifique jardin d'acclimatation de Paris, que certains esprits obtus ont bassement baptisé zoo humain et que nous avons découvert ensemble il y a quelques semaines, un événement fondateur à la base de cet appétit de savoir des masses candides envers les peuplades exotiques de notre planète eut lieu en 1904. 40 ans après la guerre de sécession et l'abolition de l'esclavage, les toutes premières Olympiques de l'ère moderne à se tenir dans le Nouveau Monde prirent place à Saint-Louis, ville besogneuse et industrieuse, fier fleuron blanc du Grand Sud américain. Saint-Louis, dans le Missouri, est la porte de l'Ouest pour tous ces braves colons d'ascendance européenne qui allaient développer ces contrées aussi grandioses et désertes qu'hostiles et sauvages jusqu'en Californie, cette même Californie qui deviendra malheureusement un état de vice, de perdition et de corruption de la jeunesse. Mais nous nous égarons, alors je vous propose de revenir à nos brebis. En effet, lors des Olympiades de Saint-Louis, eurent lieu les jours de l'anthropologie, ou comme on le dit dans la langue du bon roi George V, les Anthropology Days. Ces journées thématiques, tenues les 12 et 13 août 1904, et durant lesquelles il ne s'agit pas seulement de distraire le public, sont l'occasion d'enfin établir une hiérarchie claire basée sur des mesures probantes. Ont donc pu être testées, devant des scientifiques et des professeurs reconnus, les qualités techniques des races moins civilisées, mais qui, rappelons-le, font aussi partie de l'humanité, que cela nous plaise ou non. Pour ce faire, les athlètes de couleur, qu'ils proviennent du fin fond de la savane, des quartiers malfamés des grandes cités, ou encore qu'ils soient diplômés de prestigieuses institutions, ont été convaincus, si l'on peut dire, de porter des peaux d'animaux, de déplacer de grosses roches, de marcher sur le feu, de grimper aux arbres, de lutter dans la boue et autres démonstrations de leur savoir typique, et ce, pour l'avancement de la science. C'était la Minute Coloniale présentée par les Apatrides Anonymes.
Et oui, déjà une quatrième Minute Coloniale, et non la dernière. On a reçu quelques commentaires jusqu'à maintenant qui disaient que ces capsules-là sont trop courtes.
Oui,
Marie-Ève est d'accord, mais c'est un peu difficile, je trouve, d'oser des fois humour. Et enfin, les meilleures blagues sont peut-être les plus courtes. Je crois que je vais rester comme ça, mais peut-être prendre le micro des fois après pour contextualiser, expliquer comme je le fais maintenant pour la première fois. donner quelques informations supplémentaires. Donc, il faut savoir que les sujets qui sont traités sur un ton très caricatural, oui, mais sont tous des vrais sujets authentiques.
Et sérieux.
Et sérieux. Donc, c'est à la fois drôle et éducatif. À date, on a eu les cartes de petits chinois vendues dans les écoles du Québec, Johnny McDonald et les pensionnats autochtones, le jardin d'acclimatation de Paris et le sujet d'aujourd'hui, les journées anthropologiques pendant les Jeux olympiques de Saint-Louis en 1904. Quelques informations supplémentaires sur cet événement étrange. Les deux principaux instigateurs de l'événement débile et raciste que sont les Anthropology Days, c'est deux hommes proches de l'élite de l'époque, donc l'organisateur sportif et responsable, lui-même responsable officiel des Jeux olympiques de Saint-Louis, James Edward Sullivan, qui vient de New York et non d'une plantation dans le Mississippi. Le chef de département, l'autre co-responsable des Anthropology Days, c'est le chef du département d'anthropologie de l'Exposition universelle de Saint-Louis, William McGee. Les deux événements, les Olympiques et une genre de foire internationale, avaient lieu conjointement à Saint-Louis la même année, comme c'était souvent le cas à l'époque pour les Olympiques et les expositions universelles. Les deux adhèrent à l'idée que les Blancs anglo-américains sont au sommet de la hiérarchie raciale, autant physiquement qu'intellectuellement, et ils entendent le démontrer lors de cet événement-là grâce à ce qu'ils vont appeler des Olympiques spéciales, qui seront les journées anthropologiques. Donc, ce sont deux suprémacistes, finalement. Sullivan, le sportif, est un suprémaciste plus primaire, si je peux dire, et McGee, l'anthropologiste, lui entend vraiment collecter des données pour étayer ses thèses de racisme scientifique, qu'on appelait à l'époque. Donc, c'est pas juste une science d'humiliation des autres cultures. On entend vraiment faire de cet événement un laboratoire scientifique et valider les thèses...
Scientifique, entre guillemets, on s'entend.
Ben, scientifique...
Selon les normes du temps.
Avec prétention scientifique.
Ouais, avec des chiffres. Et c'est sûrement un des inspirateurs du docteur Mayhew, hein, on s'entend. Hein?
Oui, ben Mayhew, je crois pas qu'il y ait une culture si développée que ça.
Il a lu quelques études sur les différences entre les races, t'inquiète pas.
Mmh. Oui, ouais, entre les... On parle-tu de Doc Mayhew?
Oui, monsieur.
Donc, si on se replace dans le contexte américain, comme mentionné dans la capsule, la guerre de sécession est terminée depuis moins de 40 ans. L'esclavage a officiellement été aboli en même temps. On a même voté des amendements constitutionnels vers 1870, en vertu desquels aucune pratique discriminatoire ne peut être adoptée à l'égard des citoyens américains. Mais la ségrégation a été légalement instaurée un peu plus tard, donc à peine 8 ans avant les Olympiques en 1904. Donc, on remonte à 1896. On va adopter le principe du « separated but equal » ou en français « égaux mais séparés ». Il faut souligner qu'aucune résistance n'a été rencontrée localement lors de l'organisation des Anthropology Days. Par les politiciens, les commanditaires, etc., qui sont tous issus de la classe blanche, évidemment. Il y a eu un des responsables du Comité international olympique, c'est assez nouveau les Olympiques, c'est des Olympiques modernes à cette époque-là, qui a émis quelques réserves, mais qui a fini par céder. Donc, l'événement ne va jamais se répéter dans l'histoire de l'Olympisme, mais certains pensent que c'est surtout parce que ça n'a pas été un très grand succès, puisque ça a été très mal organisé à la dernière minute, broche à foin, plus que pour des raisons morales. Donc, l'idée, par contre, de servir les Olympiques comme vitrine de patriotisme exacerbé ou pour montrer au monde sa puissance impérialiste, ça, par contre, ça va demeurer, ça va même s'amplifier au fil des différentes éditions olympiques. Donc, sur ça, on s'en va en musique avec... il y a des Olympiques comme élément d'urbanisme. Là, tantôt, tu as parlé d'une ligne de tramway à Tel Aviv, mais les Olympiques servent souvent de genre de nettoyage social d'une ville développement immobilier.
On pourrait se rappeler les Jeux Olympiques de Berlin en 1936 aussi avec Adolf Hitler, là, quand même, et Jesse Owens.
Un exemple un peu extrême, mais tout à fait réel. On s'en va en musique avec une tune qui s'appelle Anthropology Days des Dead Milkmen.
Shut the fuck up! In 1916, in Tennessee, the murder of a stranger who just happened to be a drunken hobo. First they tried to shoot it, then electrocuted. A little lesson in history. We got a little song just to fire you up, so the next time you meet an idiot, you'll remember to tell them to shut the fuck up.
L'État qui vient d'interdire complètement l'avortement, le premier aux États-Unis, et le Mississippi... Ah non, c'est le Missouri, excusez-moi.
Ah, c'est pas pareil.
C'est Saint-Louis, par exemple. C'est ça le lien. Les Olympiades spéciales de Saint-Louis. Donc, les Dead Milkmen Anthropology Days. Citation raciste de la semaine, ben, j'avais un peu le choix, malheureusement. Je pensais à Matteo Salvini avec le bateau de migrants là, qui a été obligé d'accueillir sans l'accueillir, puis il a sorti plein de niaiseries là-dessus.
Par exemple?
C'est pas à l'État italien de payer pour les immigrants.
Ah, OK.
Mais s'il y avait et trois petits points, là, tu sais, je l'ai pas par cœur, là, tu viens de me prendre au dépourvu, mais Matteo Salvini, évidemment, le ministre italien de l'Intérieur, l'homme fort des faibles de l'Italie. Ben non, on voulait parler un peu des Autochtones quand même, parce que demain, c'est le dépôt officiel du rapport sur l'enquête nationale sur les femmes et filles disparues et assassinées autochtones. Et bon, les médias l'ont sorti un petit peu en exclusivité vendredi, certains extraits, mais... Pendant tout ce temps-là, il y a une sénatrice conservatrice en Lynn Beyack, je sais pas si ça vous dit quelque chose, qui a été suspendue sans salaire du Sénat il y a deux semaines, parce qu'elle répète des propos anti-autochtones depuis trois ans facilement, puis elle est toujours sénatrice. Et là, il y a deux semaines, le Sénat finit par la suspendre et lui obliger à ses frais à suivre des programmes éducatifs liés au racisme contre les Autochtones. Ça, c'est quand même assez drôle, quand même. Et ça a pris beaucoup de temps. Ça a été très long. Elle a eu le temps de dire plein de fois les mêmes propos que je vais vous donner tantôt. Puis elle se présente évidemment en défenseuse de la liberté d'expression et victime de la rectitude politique. Ça, c'est ce qu'elle a dit juste avant d'être condamnée, d'être suspendue.
On peut plus être raciste, là.
Ben non, écoute, c'est ça, tu sais, on est plus en 1900, on est encore en 1912, hein, Simon? Ouais, c'est ça. Ouais.
J'ai le droit d'être raciste.
Tout à fait. Donc, finalement, elle devra aussi s'excuser par écrit au Sénat et enlever des lettres offensantes qui sont sur son site Internet. C'est ça l'enjeu un peu. Et finalement, elle a essayé d'implorer un de ses collègues ou une de ses collègues de bloquer la suspension, puis il n'y a personne qui s'est levé pour l'aider. C'est quand même une chose intéressante. Elle avait été nommée au Sénat en 2013 par Stephen Harper et a été exclue du caucus conservateur l'année passée pour les mêmes lettres. Elle prétend qu'ils ne sont pas racistes, qu'elle refuse de censurer les Canadiens qui veulent s'exprimer, qu'elle ne veut pas interrompre le débat sur des questions délicates sur lesquelles les Canadiens ont exprimé diverses opinions. Il faut dire qu'en 2017, elle a prononcé un discours dans lequel elle disait que les pensionnats autochtones avaient eu des effets positifs dans la vie des enfants autochtones, voilà. Ouais. Hein, je vous gardais la surprise. Et elle laissait entendre quelques mois plus tard que les Autochtones n'étaient pas des citoyens canadiens et qu'ils devraient échanger leur certificat certificat de statut d'Indien contre un passeport canadien. Fait que ça, elle a reçu plein de lettres d'appui de plein de... ben plein. Quelques lettres d'appui de plusieurs personnes à travers le Canada. Et elle a partagé ces lettres sur son site Internet. Et là-dedans, ben, on retrouve des gens qui disent que beaucoup de bien a été fait dans ces institutions créées pour donner aux jeunes autochtones une chance d'apprendre et de faire partie de la société.
Ben, ils vont aller au paradis aussi.
Non? Exactement. Ben, attends, Simon, ça s'en vient. Okay. Un autre dit que grâce au pensionnat, les Autochtones peuvent fonctionner dans notre monde moderne jusqu'à un certain point. D'autres disent que certainement la décision d'assimiler les Premières Nations au Canada était et demeure la bonne, évidemment. Que des gens croient qu'ils ont acquis des habiletés utiles et qu'ils ont bénéficié des activités récréatives et de la pratique des sports. On rejoint un petit peu tes minutes coloniales, là, Simon. Et le fait d'avoir fréquenté un pensionnat autochtone était une expérience positive pour certaines personnes. Et la meilleure, ben, ça qui est plus ou moins lié, c'est qu'elle a même laissé des lettres de gens qui disent, qui débordent du thème, là, qui félicite la sénatrice de se tenir debout et de réclamer des comptes pour les millions en taxes versées aux Autochtones. Fait qu'on voit un peu le... Fait que ça, ces lettres-là sont sur son site depuis 2 ans.
Elle vient pas de Québec.
Elle est ontarienne.
Ah, d'accord.
Ouais. Et ça fait 2 ans qu'on lui demande d'enlever ces lettres-là d'appui sur son site internet et qu'elle dit non, c'est la liberté d'expression, j'ai le droit de faire ça. Fait que finalement, ça a un peu abouti finalement avec sa suspension du Sénat. Elle avait déjà été exclue, comme je vous disais, du caucus conservateur, ce qui est quand même, faut le faire, être exclue du caucus conservateur.
Non, c'est ça.
Pour des propos conservateurs, justement. Donc, voilà. Fait que ça, c'est un peu le dénouement. Puis c'est drôle que ça arrive à quelques jours du dépôt. Demain, on va parler du génocide contre les femmes autochtones, entre autres. Ça s'est passé à travers, entre autres, les pensionnats. Mm-hmm. Au niveau historique. Donc, voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Puis j'aurais pu choisir aussi, je finis là-dessus, Michael Cooper, député conservateur de Edmonton, qui a cette semaine tenu des propos assez spéciaux dans une commission parlementaire sur la haine en ligne. Là, c'est le comité permanent sur la justice. Et il a même lu en chambre des extraits du manifeste du gars qui a tué...
Le tueur de Christchurch.
Pour répondre à un musulman qui disait que certains commentateurs encourageait la haine comme ça. Puis lui, il a lu un extrait du manifeste du gars de Christchurch qui disait que non, moi je suis pas inspiré par les commentateurs conservateurs. Fait que finalement, il a été suspendu hier tard soir du caucus conservateur par Andrew Scheer aussi. Donc,
c'est fou quand même.
C'est... Écoute, puis ça, c'est ce qu'on sait, hein, évidemment. Puis ça, c'est sans compter ceux en Alberta avec Kenney, ceux avec Ford en Ontario. Donc j'arrête là-dessus. C'est des citations racistes, malheureusement, il y en a trop, il y en a beaucoup. Fait que je vous laisse avec Madame sénatrice ontarienne Lynn Bayak. C'est à mon tour.
Alors, Marie-Ève de retour au micro qui alterne entre la console et
c'est
le
la
micro.
Chaise musicale antiraciste.
Voilà. D'autres petits suivis. Évidemment, bon, il y a eu les élections européennes là qui se sont terminées le 26 mai dernier. Alors que le taux de participation a atteint, tenez-vous bien, 51%. Plusieurs analystes affirment que la grande gagnante des élections, c'est l'Union européenne elle-même, puisque le dernier scrutin avait à peine dépassé les 40%. Donc, lors de notre dernière émission, j'avais abordé la lutte féroce entre la tendance d'extrême droite, fièrement représentée par Matteo Salvini et Marine Le Pen, et celle du centre droit et de la gauche molle, représentée principalement par Emmanuel Macron. Donc, à l'issue du scrutin, non seulement le clivage gauche-droite s'est maintenu, mais l'extrême droite a réussi à se tailler une place d'importance, si on peut dire, au Parlement européen. D'abord, c'est le Parti populaire européen, dont est membre le parti du premier ministre hongrois Viktor Orban, qui a remporté le plus de sièges, soit 179 sur 751. Il est suivi de près par l'Alliance progressiste des socialistes et des démocrates, qui, eux, ont obtenu 153 sièges. Quand t'as l'Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe, dont fait partie Macron, Elle a remporté 105 sièges. Donc, et finalement, le mouvement pour une Europe des nations et des libertés, qui est le groupe là, duquel Matteo Salvini et Marine Le Pen font partie, elle n'a raflé que 58 sièges. Ça fait que ça, c'est comme des résultats comme précis, là, particuliers. Mm-hmm. Mais si on le prend dans l'ensemble, si on regarde les résultats dans l'ensemble, même si les partis de centre-droit, de gauche et écologistes sont restés majoritaires au Parlement avec 389 sièges, la totalité des partis d'extrême-droite ont quand même rang, et des eurosceptiques, a quand même accaparé 362 sièges. Donc, c'est vraiment comme, ça s'est joué, c'était une chaude lutte, en fait. Puis, l'extrême-droite a quand même remonté au Parlement européen. Si on regarde la France, par exemple, il semblerait que là, c'est les trois tendances politiques qui ont progressé au niveau européen. C'est l'Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe, là, qui est clairement pro-européen, qui, ça, c'est Macron, et les partis eurosceptiques et les écologistes. Par exemple, La République en marche, là, de Macron, en France, a pris a sensiblement maintenu son score de 2017, là, avec 22% des votes. Mais là où ça devient comme un enjeu, c'est que le Rassemblement national de Marine Le Pen, lui, est passé, bon, il a diminué, il est passé de 25% à 23%, mais il dépasse quand même d'un point Macron, tu sais, mais les grands perdants, par exemple, en France, de l'élection européenne, c'est les Républicains, là, qui sont, en fait, c'est la droite gaulliste, qui sont passés, ils se sont littéralement...
C'est l'ancien parti de Sarkozy, ça.
C'est ça, ils se sont littéralement effondrés, passant de 21% à 9%, à un peu moins de 9%. Fait qu'imaginez, même, genre, si on met ensemble le Parti communiste français, le Parti Génération... puis qui à eux deux ont rassemblé 5% des suffrages. Si on ajoute les socialistes, ce groupe-là, en fait, a ramassé 12% des suffrages en France, soit plus que les gaullistes. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que le résultat français, en fait, est assez représentatif de comment ça s'est passé dans les principaux autres pays de l'Union européenne, comme l'Italie, l'Allemagne et la Hongrie, où soit l'extrême droite ou la droite de centre, là, chrétienne, a raflé là, une bonne majorité des sièges. Donc, on a beau dire, certains analystes ont beau dire que l'Union européenne sort gagnante, reste qu'elle est plus divisée que jamais là, sur cette fraction-là.
Les Verts, sur la question européenne, ils se situent plus à droite, plus à gauche, plus pro-Europe ou...
En général, sont pro-Union européenne.
D'accord.
Font pas partie des eurosceptiques.
OK. Ben écoutez, on va continuer. C'est l'heure de l'agenda antiraciste. On
oui,
doit avoir une chanson,
vrai.
Mais on vous parle trop aujourd'hui, je pense. Là. Alors, quatre événements. Je vais essayer de vous parler des quatre. Le 7 juin, donc vendredi prochain, 12h30 à 14h, les Favelas de Rio de Janeiro. C'est présenté au Centre d'urbanisation culture-société de l'INRS, 385 Sherbrooke-Est, coin Saint-Denis. L'accès est libre. Conférence publique de Rafael Suarez-Gonsalves, animation et commentaire de James Freeman. En gros, les sujets abordés, processus d'éradication des favelas, impact de l'instauration des unités de police pacificatrices dans les favelas, spéculation immobilière et enjeux de valorisation du territoire. Différents exemples d'autogestion développés dans plusieurs communautés, tout ça dans une perspective historique. Donc, on présume que, comme c'est au Brésil, on va nous parler aussi des Olympiques qu'il y a eu à Rio, qui a été un catalyseur de ménage social. James Freeman, lui, est un professeur au département de géographie, planning et environnement à l'Université Concordia. Pour toute question, anne-marie.veillette@ucs.inrs.ca. J'imagine que
tu m'as
donné
noté ça.
Donc, c'est un séminaire donné par le professeur Gonçalves qui est aussi organisé le 6 juin. Donc, pour plus d'informations, vous référez à la même adresse courriel que je viens de donner, que Marie-Ève, tu peux me répéter, je pense?
.inrs.
Merci. Boucan décolonial, Haïti, Première Nation du CA-Canada, dimanche 9 juin, coop les récoltes. Je vais y aller très vite, donc je présenterai pas de résumé de l'événement. Migrer pour vivre, ça c'est jeudi le 13 juin au Centre Saint-Pierre. Nouveau défi d'immigration haïtienne, c'est organisé par l'ACOSI, l'Association québécoise des organismes de coopération internationale. Donc, 13 juin au Centre Saint-Pierre à 15h. La manifestation annuelle de Solidarité sans frontières a lieu le 16 juin, donc dans exactement 2 semaines. Nous y serons probablement, donc on va pré-enregistrer une émission avant. Donc, on vous parlera probablement pas de la manifestation dans la prochaine émission dans 2 semaines, puisqu'on y sera, mais on va essayer de faire des captations, avoir des entrevues, vous parler de vous faire un résumé de ce qui s'est passé finalement.
Ouais, vous présenter un genre de reportage, en fait, de cette manifestation-là à notre émission suivante.
Exactement, sous une forme qui reste à définir. Donc, puis c'est particulier dans le contexte de la CAQ, du PL21, tout ça, c'est quand même des montées de l'extrême droite un peu partout. Je pense que c'est un contexte particulier qui, on n'a pas le choix d'aller là.
Le point de rendez-vous, c'est au métro Plamondon, hein,
Parc Nelson Mandela, près du métro Plamondon, dimanche 16 juin à 14h30, marche festive et pique-nique. Apportez vos enfants, si vous en avez, évidemment. Donc, c'était Simon au micro. Ce fut un grand plaisir d'animer, pour la première fois dans mon cas, cette 6e émission des Apatrides Anonymes en compagnie de mes 2 acolytes qui se sont succédés à la fois au micro et à la console. Marie-Ève, merci Marie-Ève.
Ma première.
Ben oui, t'as bien fait ça. Comment? Et Mathieu, qui est à la console actuellement. Merci beaucoup, Mathieu.
Ben, merci pour votre bon travail.
À bientôt dans 2 semaines. Merci de votre écoute et restez à l'antenne de choc.ca. Ah, on a peut-être un petit quelque chose
ben,
à
peut-être,
dire.
Peut-être dire nos coordonnées quand même avant de quitter les gens.
Hein? J'oubliais. Le site web apatridesanonymes.info, notre adresse courriel apatridesanonymes, tout au pluriel, tout ensemble, à resist.ca.
Et notre page d'émission sur le site de Choc FM,
de choc.ca,
où on peut réécouter les 5 autres émissions qu'on a faites à date. C'était la 6e aujourd'hui. Ouais.
Ben oui, donc le bateau est parti. Là, je pense qu'on a pris nos airs d'aller.
Pour l'été.
Voilà. À dans 2 semaines.
Si on veut connaître la chance d'étudier, la chance de voir nos rêves se réaliser, avoir un beau métier, pouvoir voyager, connaître ce que vous appelez liberté. On veut que nos familles ne manquent plus de rien. On veut avoir cette vie où l'on mange à sa faim. On veut quitter cette misère quotidienne pour de bon. On veut partir d'ici quand nous sommes tous en train de péter les plombs. Oh.
Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Ni même une goutte de pluie, tout au fond du puits, en levant très vite sur le chemin de l'école.